Jelly Tapa donc, et vous écoutez présentement Barocan. Elle est descendante d'une lignée illustre de griots maliens. Elle est chanteuse. Jelly Tapa anime la scène avec un répertoire en suspens entre ambiance sahélienne, blues et électro. J'ai fait le constat en écoutant ses œuvres et en préparant cette entrevue que même déracinée dans le sens qu'elle se trouve ailleurs que son pays d'origine, sa musique demeure viscéralement implantée dans la tradition. Madame Jelly Tapa, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais super bien.
Hein? Je sens un petit sourire déjà chez vous.
Toujours profiter du moment. Aujourd'hui, il fait beau, donc il faut sourire.
Ok. Alors, expliquez-nous. Quand je lis que vous êtes descendant d'une lignée illustre de griots maliens, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que je viens d'une famille dont la transmission se fait de génération en génération. Je viens d'une famille où mes aïeux ont gardé, ont surveillé, ont transmis l'histoire de l'Empire mandingue, donc les dépositaires de la tradition orale.
Est-ce que c'est important de maintenir cette tradition?
C'est important de maintenir. Je pense que dans chaque société, il y a les griots. Les griots se trouvent dans toutes les traditions du monde. Il y a des gens qui sont là pour surveiller les traditions, pour le transmettre, même si ce n'est que des histoires de pêche. Il y a des gens qui le transmettent de génération en génération. Ce sont les gardiens de notre patrimoine. Donc c'est important de garder ces gens-là dans la société. Parce qu'ils nous amènent quelque chose d'important, ils amènent la cohésion sociale, ils amènent l'entraide, ils amènent la solidarité.
D'accord. Mais dites-moi, est-ce que, lorsqu'on parle de tradition, hein,
oui.
vous n'êtes plus au Mali, donc comment faites-vous pour maintenir cette tradition et comment faites-vous pour que dans votre musique, hein, cette tradition est transcendée, est réelle, est palpable?
C'est un rôle social avant tout.
Mm-hmm.
Donc ce rôle social doit se refléter dans chaque chose que nous faisons. Donc quand je chante les femmes, quand j'encourage les femmes, quand j'invoque la force de la femme, pour moi je joue encore le rôle de la griotte qui est là pour soutenir, qui est là pour encourager. Donc ce rôle-là se sent dans n'importe quel secteur de notre vie.
Votre dernier album, Barocan, dont j'ai joué un extrait, et au fait, je peux vous dire honnêtement, lorsque je me suis mis à écouter les différentes pièces de l'album, et puis j'ai choisi tout de suite Barocan pour commencer, parce que c'est le titre de l'album. Et il y a quelque chose de ce qu'on appelle en créole, je me permets d'utiliser une expression créole, le potomitant. On a l'impression que vous êtes au milieu de tout et que vous en avez le plein contrôle. Est-ce que je me trompe?
Et c'est effectivement ça, parce que l'être humain est en beaucoup de phases, en phase avec sa personne, en phase avec sa spiritualité, en phase avec le monde qui l'entoure. Donc pour moi, pour avoir un équilibre, ce sont ces trois éléments qui doivent être là. Donc dans mes chansons, je pense que je suis en phase d'équilibre personnellement. Donc dans mes chansons, ça se sent. Et étant une femme aussi impliquée dans la cause de la femme, dans le féminisme, dans le sens où l'égalité, où la femme, elle est importante, qu'elle doit prendre sa place dans la société, Oui, donc c'est exactement dans ce sens-là qu'on est sans. C'est pas dans le sens de d'une guerrière qui veut mener un combat ou quoi que ce soit. Le combat, pour moi, c'est le combat de l'équilibre. Et donc, je cherche continuellement mon propre équilibre et j'essaie de le transmettre dans ma musique.
Et quelle est l'influence, que ce soit de votre père, Djeli Bouya Diarra, qui lui aussi est griot, et votre mère, et Kandia Kouyaté, pardon, l'une des plus grandes cantatrices du Mali.
Oui. Mais mon influence vient quand même de tous les côtés, hein. Que ça soit du côté parental, mais du côté parental que du côté expérience vécue ici et là aussi. Mais je pense que j'ai trouvé ma voie à travers ma grand-mère, la petite sœur de ma grand-mère chez nous dans l'Empire du Mandé. Une petite sœur d'une grand-mère est une grand-mère, point. Il n'y a pas de demi-sœur, il n'y a pas de demi-frère, il n'y a que des frères. Donc c'est à travers une grand-mère qui était une grande voix aussi de Bricot, j'ai trouvé ma voix.
Et vous en tirez quoi lorsqu'on va chercher dans la tradition?
La tradition nous permet de... Moi, quand je sais que je vais tirer de la tradition, c'est de mon attachement à mes valeurs. Et parce que à un moment donné, il ne faut pas oublier qui on est. Donc, c'est la reconnaissance de soi d'abord. C'est de maintenir son propre équilibre. C'est pourquoi je parle de l'équilibre, parce que ma tradition me permet de rester moi-même, malgré toutes les influences, d'avoir ce côté pour ne pas me perdre. C'est comme mon boussole.
Donc finalement, si on retrouve plutôt cette tradition dans votre musique, il faut absolument pas s'étonner.
Non, il faut pas vraiment s'étonner parce que sans ça, je m'y perdrais.
D'accord. Est-ce que vous jouez d'un instrument?
Je suis un tout petit peu percussionniste. Je joue le talking drum. Je joue un instrument sur scène qu'on appelle le bara, qui est un instrument traditionnel de ma famille, joué très souvent, la plupart du temps d'ailleurs, par les hommes, à part les femmes. Mais il n'y a pas de limite pour la femme contemporaine comme moi.
Et donc finalement, vous êtes littéralement imprégné dans le monde d'aujourd'hui avec ses avantages, ses inconvénients.
Définitivement, on ne peut pas vivre en dehors de son temps. Donc, moi, je suis une afro-futuriste, je vois et je ne vois pas de limite à qu'une femme a à travers, surtout, j'utilise actuellement pratiquement dans ma musique de l'électro qui est une influence occidentale, donc qui est aussi de ma génération. Je suis une femme du 21e siècle, donc je vis dans mon temps, je suis une afro-futuriste, donc je vois l'avenir autrement. Donc pour moi, c'est définitivement, je suis une femme contemporaine.
D'accord. Et quand vous dites afro-futuriste, vous parlez de quoi? Vous faites référence à quoi exactement?
Parce que vous savez, très souvent, la musique africaine, les musiques africaines, on nous met tout le temps, on pense que c'est, disons, je dirais même pas on, elle est tout le temps mise dans la case que c'est une musique traditionnelle, qu'elle n'évolue pas, c'est ce qu'on nos ancêtres ont fait, on continue là-dessus. Mais même cette musique, c'est de montrer qu'elle est évolutive, elle vit dans son temps, elle est même imaginative. Donc nous aussi, nous pensons à une musique qui transcende le temps, donc qu'on ne peut pas situer dans un temps précis. Donc c'est pourquoi on parle d'afrofuturisme.
Alors faisons un petit retour en arrière. Qu'est-ce qui vous a amené au Québec?
Moi, je suis venu au Québec pour les études. Pour les études, après ça, je me suis marié, donc, et puis la musique, donc j'étais venu pour les études, à la base.
D'accord, on dit
qui prend femme, je ne sais pas aussi, prend pays, mais ben, moi pays. J'ai épousé le Québec, le Canada, définitivement.
Qu'est-ce qui vous fascine avec le Québec? Si fascination,
moi,
il y a
la liberté.
La liberté.
La liberté d'expression, la liberté d'être qui on veut, ce mélange aussi qui est là. Le Québec est unique. Nous sommes multiculturels, multilinguistiques, multi-tout. C'est dans le Québec que tu peux être en Chine, c'est dans le Québec que tu peux être en Italie, c'est dans le Québec que tu peux être en Afrique, où tu veux. Mais tu es au Québec.
D'accord. Non, bien dit. Mais dites-moi, une fois que vous avez pris la décision de rester, qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers la musique?
Ben, je suis née dans la musique, mais c'est la demande de la communauté, avoir l'aide griot qui m'a motivée à venir. J'ai été motivée par la communauté africaine.
D'accord. Et puis ça, ça vous a donné le goût de vous mettre. Alors, comment vous y êtes prise pour créer quelque chose? Parce qu'on peut avoir envie de faire, mais en même temps, des fois, c'est pas toujours évident. Alors, comment vous êtes prise pour pouvoir à un jour dire, ben voilà, j'ai envie de produire un album, j'ai envie de faire de la musique, et peut-être pas en vivre dans l'immédiat, mais je veux faire de la musique. Alors, une fois que l'idée a été mise en place, qu'est-ce que vous avez fait comme démarche?
J'ai fait mes classes tout simplement. J'ai commencé pratiquement au bas de l'échelle. Hein. Mm-hmm. J'ai fait des bacs vocales pour mes frères Ali Idrissa Sissoko, Ablaï Koné. J'ai donné des ateliers dans des écoles en faisant partie de Takadia. Je faisais partie aussi des artistes du Centre Africa. Donc j'ai fait mes classes. Mm-hmm. Donc j'ai commencé au bas de l'échelle comme tous jeunes artistes qui prend sur le tas. Donc, j'ai donné des concerts dans des bars, dans n'importe quelle situation, dans des camps, partout, dans les maisons de retraite. Et tout pour moi, c'est le temps. C'est le temps et en faisant ces classes qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui.
Mmh. Quand vous êtes sur scène, je vois énormément de joie de vivre. Hein? Et comme vous m'avez dit tout à l'heure,
sur scène, mon ex-mari me disait que il trouvait que je suis tout le temps heureuse, mais le moment où je suis le plus heureuse sur cette terre, c'est quand je suis sur scène. S'il y a quelque chose d'inexpliqué quand je suis sur scène, l'énergie, ce partage d'énergie qui est enrichissant. Je pense que mon âme a besoin de ça. Et quand je suis sur scène, ça se voit.
D'accord. Alors, je demandais à mon metteur en onde de nous remettre Barocan, juste le temps de redonner une petite idée aux auditeurs. Mais juste avant, une petite question pour vous. Parce que
oui.
Quand je vous ai vu à la percussion dans une vidéo, vous semblez utiliser l'instrument non pas seulement comme un outil pour avoir un son, mais oui, comme quelque chose qui était une extension de vos bras. Est-ce que je me trompe?
C'est vrai, c'est pas l'extension de mon bras, je dirais l'extension de mon cœur, tout simplement. Parce que j'amène le battement de mon cœur. Moi, je suis pas très, très doué en percussion, mais c'est le son de mon cœur que je joue en percussion.
D'accord. Alors, on écoute quelques secondes de Barocan et on revient.
Oui.
Horom sonin temeto horom solondo mo temeto akumanye mungeli ala mo sra barokanye mo hawaye fae girla yo
Alors, vous chantez très bien aussi. Oui, allô?
Allô, oui, je suis là avec vous.
D'accord, vous chantez très bien aussi, vous avez une belle voix, une voix prenante. Et le mot qui revient très souvent lorsque je pense à vous, j'utilise le mot viscéral. Et est-ce que je suis à côté ou vous voulez ajouter des précisions?
Non, ma voix, jusqu'à présent, moi je dirais que je la connais pas trop bien.
Okay.
Je l'apprivoise de jour en jour parce que j'ai une voix atypique, donc c'est elle est différente. Donc chaque jour, j'essaye de la comprendre. Elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle dépend de la température, elle dépend de mon humeur et tout, tout, tout. Donc vous la découvrez chaque jour avec moi-même.
D'accord. Alors dites-moi, et vous avez gagné plusieurs prix déjà. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait de gagner déjà des prix?
Oui, j'ai gagné. D'abord, c'était la révélation. Mm-hmm. Après la révélation, le gala dynastie. Mm-hmm. Après le gala dynastie, j'ai eu le Gino. J'ai eu aussi le prix de rideau. J'ai eu aussi le prix Opus. Le dernier, c'est le prix Opus.
Mm-hmm. Donc, ça, le fait de gagner déjà des prix et que les gens prêtent une attention particulière à ce que vous faites, est-ce que ça vous encourage à en faire davantage ou vous vous dites, bon, j'ai déjà accompli, j'arrête là?
Non, que ça m'encourage davantage à foncer, à travailler plus, à perfectionner, à continuer à faire des recherches parce qu'on ne finit jamais d'apprendre.
Et les gens ont l'occasion de vous entendre parce que vous serez à Mondo Carnaval.
Exactement. Hein,
racontez-nous un peu cette aventure.
À 20h.
Alors, qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui comme spectacle?
Une spectacle. Ce que je prévois que les gens vont vivre ce soir, c'est vraiment, c'est parce que c'était mon premier spectacle quand j'ai fini mes vacances et tout. Mm-hmm. Donc j'avais la joie, j'avais la chaleur, j'étais en feu, je me sentais belle, j'étais une reine, j'étais en possession de tous mes sens. Je pense que aujourd'hui on attend toujours je me nomme souvent moi-même, je m'appelle Volcan. Donc on attend le volcan.
OK. Alors un volcan pour vous c'est quoi?
un volcan, c'est la force. Un volcan, c'est la chaleur. Un volcan aussi, là, quand elle passe quelque part, elle prend la place.
D'accord. Ce n'est pas que du feu qui passe et qui s'éteint.
Non, c'est du volcan.
C'est du volcan.
Même quand elle s'éteint, là, on sait qu'il y a un volcan qui est passé là.
Qui est passé là. Alors, Djeli Tapa, un plaisir d'avoir échangé avec vous. Et j'aime beaucoup ce côté volcan, mais surtout, cette voix qui s'assume. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci à vous.
Au plaisir.
Au plaisir.
Quand même mon fort, quand même mon cœur, quand même mon fort, qu'on y a un face au lieu qu'on va carrer, mara la lourde. Wow.